Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons vous présenter des réalisateurs de documentaires que nous avons rencontrés pour certains aux états généraux du film documentaire de l'USAS les 21 et 27 août dernier. Nous espérons programmer ces documentaires au festival Bobine Rebelle qui aura lieu les 26 et 27 novembre prochains à la Bourse du Travail de Saint-Denis.
Je m'appelle Philippe Clateau, j'ai 52 ans et je suis réalisateur, jeune réalisateur, on va dire, d'un documentaire qui s'appelle Les Contis gonflés à bloc, réalisé en cours de l'année 2009 et sélectionné aux états généraux de l'USAS en 2011.
Tu peux nous faire une présentation du film des Contis et puis rappeler un petit peu ce que c'est, ce qui s'est passé à Continental. Donc c'était en 2009.
Le 11 mars 2009, les Contis, comme toute la France, apprend par la radio, France Inter, France Info, que l'usine va fermer, et alors que les employés sont pas au courant. Quoi.
C'est vrai que ça serait bien de faire un petit rappel sur Continental, parce que c'est un événement qui est arrivé il y a déjà 2 ans, et puis on n'a plus tout ça en tête. Donc juste de rappeler un petit peu qui sont les Contis et pourquoi ils se sont battus.
Donc ces ouvriers qui apprennent le 11 mars 2009 que leur usine va fermer, donc automatiquement ils vont se battre, et donc du coup ça a intéressé énormément tous les médias, et on a entendu parler pendant des mois et des mois pendant toute l'année 2009, je pense que tout le monde a entendu parler au moins une fois, et ils ont aussi fait les choses pour aussi que les médias parlent d'eux, quoi. Donc à Paris, des actions à aller en Allemagne, je pense que ça faisait certainement des dizaines et des dizaines d'années que des ouvriers français allaient gueuler sur leur la direction allemande à Hanovre, qu'ils n'étaient pas d'accord avec la fermeture de l'usine, avec un convoi, un train pour eux, des choses comme ça, remplis aussi le journaliste, donc des actions qui ont été faites comme ça sur des mois et pour pour aboutir à être entendu quelque part et obtenir un peu les revendications qu'il souhaitait.
Continental, en fait, c'est quoi comme entreprise ?
Alors Continental, c'est une marque de pneus, de pneumatiques. C'est une usine qui fabrique donc des pneus de voiture à cet endroit-là, parce qu'il y a des pneus de tracteur ailleurs. Et voilà, c'est des pneus pour les voitures. Des millions d'exemplaires, je crois, de pneus qui sortent de cette usine chaque année et qui marchent et qui fait des bénéfices. C'est-à-dire que c'est pas du chiffre d'affaires, ça fait c'est une usine qui, je crois, de mémoire, faisait en 2008 26 millions d'euros de bénéfices et l'usine ferme, quoi. Parce que voilà, le capitalisme, enfin les actionnaires ont décidé de fermer cette usine et de la remonter en Roumanie parce que un ouvrier sera, je crois, à peu près 4 fois moins cher payé, donc 4 fois plus de profit, ce que dit très bien un ouvrier de Conti dans le début du film, quoi. Donc c'est une délocalisation pur jus, quoi. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a tellement de gens qui leur arrivent ça dans des petites boîtes et on n'entend jamais parler parce que la presse, ça ne les intéresse pas. J'ai demandé, moi, pourquoi à certains journalistes, pourquoi la presse était venue les soutenir, enfin en parler, et je pense que c'est lié au résultat, si, parce que la presse faisait qu'à un moment donné, Continental avait une mauvaise image. Je suis sûr que Continental, il y a des gens qui ont boycotté cette marque-là par solidarité. Au niveau de l'image, je crois qu'ils ont dû perdre énormément d'argent, quoi, sur les mois et les mois de conflit, quoi. Donc à un moment donné, ça c'était les médias qui mettaient la pression. Et l'État, quand on apprend par les médias que l'État, ils sont aussi responsables parce que c'est les lois de ce gouvernement de droite, libéral, et que des patrons, en profitent, et qu'après on essaye de jouer les couleuvres en disant « Attendez les gars, on va vous aider, c'est pas vous les voyous, c'est eux », et alors que c'est de l'esbrouf, quoi. Donc là je parle un peu politique, mais, et voilà, donc c'est ça qui se passe. Et là, y a les médias, et les médias les a pas fait oublier de l'opinion publique, et ça a joué. Il y a eu 500 000 pertes d'emplois dans l'année 2009, eux ils sont 1120. Donc à part Molex, Caterpillar, enfin des grosses boîtes, en plus de Continental qu'on entendait parler dans cette année-là, c'est à 500 000, je veux dire, le nombre de boîtes et de gens qui sont partis sans boulot, perdent leur boulot et on n'en a jamais entendu parler, dans des conditions où ils avaient tout, à mon avis, tout perdu. Non, c'est triste. Donc ce combat, enfin je veux dire, ce combat de mettre à genoux une multinationale en 2010, d'aboutir à dire ça se passera pas comme ça, on veut ça et l'obtenir, entre une multinationale d'un côté, l'État français qui à mon avis est d'entrée du côté de la multinationale, mais on le dit pas, c'est pas évident, hein, comme combat, quoi. Et d'aboutir à ce qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire si entre les primes, ils ont obtenu 5 années de salaire alors que l'usine est fermée, quoi. 10 000 euros chacun pour se reformer, à retrouver du boulot. Je pense que ils s'en sortent bien maintenant par rapport à d'autres. Maintenant, quelque part, ce qui est triste, c'est que quand même que l'outil de travail, enfin l'usine a fermé, quoi. Ça, c'est terrible, quoi.
Et c'est en combien de temps, hein, combien de temps a duré leur lutte, en fait ?
La lutte par rapport à l'obtention des revendications, mars, avril, mai, juin, fin juin, c'est 4 mois. Ensuite commence, parce que je ne sais plus la date, le 21 avril, dans leur combat, à un moment donné, ils décident d'aller à la sous-préfecture de Compiègne pour se faire entendre, parce que les gens du gouvernement ne veulent même plus leur répondre. Donc ils décident d'un pro total, quoi. On va aller voir la sous-préfète de Compiègne, parce que c'est quand même le représentant de l'État, et d'essayer d'avoir directement les gens du ministère, Monsieur Châtel, je sais plus son nom, et là, Monsieur Gustin, voilà, qui s'occupait du dossier, et là, le hasard fait que Xavier reçoit...
Vous rappelez quand même qui c'est, Xavier ?
Xavier Mathieu, c'est le porte-parole délégué CGT de l'usine et il a le rôle de porte-parole, c'est lui qui menait les meetings. Voilà, un pro total aussi pour lui et il s'en est très très bien sorti. Il a quelque chose, il a confédéré autour de lui par sa façon très simple de parler, avec des mots justes et tout. Donc et il a appris ce jour-là que le tribunal de Sarreguemines, pour un truc par rapport au travail, ils avaient perdu. Et donc la déception, l'attente à la sous-préfecture, parce qu'ils étaient menés un bateau, ils ont retourné la sous-préfecture, ils ont acheté les meubles par les fenêtres, les ordinateurs. Il y a eu une portée plainte. Après c'était du juridique, la police. L'acharnement de l'État, c'était la chaîne. On a demandé au directeur de l'usine de montrer, parce qu'ils se sont servis des images des télévisions pour reconnaître les gens. Donc ça c'est terrible, mais il paraît que les télés étaient obligés de le faire. Les images ont été vues par la direction de Continental Clairoy. Et les gens de Clairoy ont décidé qu'il y avait Xavier Mathieu, le meneur, enfin tous les meneurs, les mecs de la CGT, les mecs du comité de lutte, les sept personnes, dont une femme, et qui seraient eux, ils prenaient pour tout le monde, c'est-à-dire que c'était eux les responsables. Et là a commencé un autre combat, c'est-à-dire que les Conti avaient gagné leur revendication et tous les Conti étaient solidaires à défendre leurs sept copains, quoi. Donc ça a duré, ça, ça commence, l'histoire commence en avril-mai, ça a fini en février 2010, quoi.
Justement, dans ton film, tu n'as aucune image de cette, enfin à part la une du courrier Picard, je crois, si je me rappelle bien, de cette affaire du tribunal de la sous-préfecture de Compiègne, qui est quand même, j'ai l'impression, le moment où ça atteint médiatiquement quelque chose de très important et où Xavier Mathieu est un personnage un petit peu incontournable de l'actualité. Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il y a une raison logistique pour que tu n'aies pas d'image dans ton film? Est-ce que du bazar à la sous-préfecture.
J'ai une super réponse à te faire. J'étais pas là. Et quand je viens en fin de journée, si tu veux, en plus, quand ils sont venus de la case de la sous-préfecture, ils reviennent à l'usine. Et là, ils cassent la cahute d'entrée de l'usine. Ils explosent tous les vitres et tout. Et ce geste-là, en plus, et je sais pas s'ils étaient conscients, c'est toute le système de sécurité de l'usine est arrivé là. Et donc, toutes ces choses-là ont été cassées. C'est-à-dire qu'après, au niveau de la sécurité, ils ne peuvent pas travailler. Donc, la direction dit l'usine est fermée maintenant. Donc, ça, quelque part, c'est eux qui ont cassé l'outil, là. Tu vois. Mais je ne sais pas si c'était conscient. Je ne sais pas. Ça. On n'en a pas parlé. C'était un geste encore de colère, quoi. Donc ils ont cassé les vis, mais ils ont cassé aussi le matériel qu'il y avait à l'intérieur, et donc ils n'ont plus de sécurité. Donc là, ils continuaient à cette époque-là à travailler, mais ils ne faisaient rien, quoi, dans l'usine. Donc là, ça a changé, c'est qu'on leur a interdit de rentrer dans l'usine, quoi. Là, il n'y avait plus personne, c'était fini, quoi. Et donc quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai entendu parler qu'il s'était passé vraiment un truc, parce que tout le monde faisait la gueule. Eux-mêmes sentaient qu'il y avait par la sous-préfecture, je pense que la casse dans l'usine, ils n'en avaient rien à foutre, mais la sous-préfecture, là, ils avaient passé un seuil, quoi, dans la violence quelque part. Et puis voilà, mais ils assumaient, mais c'est après, quand dans le film, tu l'entends bien, parce que le lendemain, une AG supplémentaire, et là, le numéro 2 quelque part de la CGT, Didier Bernard, annonce, parce qu'ils sont hyper complémentaires, il y en a qui expliquent certaines choses, c'est un vrai duo. Ouais. Et Didier a le micro, et là, voilà, il dit, Fillon sur France Inter a dit ce matin que les gens qui ont fait ça seront punis, quoi. Et là, là commence cette partie tribunal, quoi, qui a duré plein de mois. Il y en a eu trois de jugements, quoi. Un acharnement, et pour finir, ils ont rien eu, quoi. Ils ont eu 2 à 4 000 euros d'amende, je crois. Mais parce que c'était grotesque. Puis après, on a encore parlé récemment, il y a quelques mois, puisque suite à ça, des 7, il y a un acharnement quelque part. Le seul, c'était Xavier Mathieu, où il a refusé les prises ADN, quoi. Et lui, en disant, mais c'est scandaleux, normalement c'est prévu que pour les obsédés sexuels, enfin tout, enfin il y avait une tranche criminelle très très... Et donc lui a dit, il est hors de question, et donc ils l'ont réattaqué en procès, et tout ça, et il a gagné son procès. Donc ça, c'est bien.
De toute façon, il n'a pas tellement froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas peur, il le dit.
Alors, il a, c'est une sacrée personnalité. Mais moi, après, j'ai voulu, enfin, en tant que réalisateur, après premier film, enfin, j'ai réagi sans expérience, quoi, sans en disant, voilà, j'ai voulu rester avec le plus grand nombre et aussi ne pas donner d'importance à Xavier Mathieu, mais à ceux qui étaient automatiquement devant. Enfin, il faut des têtes pensantes, il faut, enfin, il y a une structure qui va préparer les choses, qui va dire, qui va canaliser, qui connaît les lois. Qui, c'est un sacré merdier quand même de se battre
dedans. Syndicalisme, c'est du boulot, quoi, et c'est des mecs qui bossent vraiment, même quand ils sont en grève, ça bosse vraiment, ça bosse encore plus peut-être même d'ailleurs.
Ah ouais, et heureusement que le syndicat et les syndicats sont là. Maintenant ils ont, il y a 5-6 syndicats dans, mais je crois que l'ambiance avant le 11 mars c'était ce qu'on trouve dans toutes les boîtes, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats, la CGT à mon avis, ils sont pas potes avec les mecs des cadres et même avec d'autres syndicats, quoi. Donc il y a une division automatiquement qui se fait là-dedans, naturelle ou pas, je sais pas, mais je sais que ça existe, quoi. Mais l'intelligence dans le conflit, quand ils apprennent ça, c'est tout de suite que c'est tous les syndicats qui doivent se réunir et se mettre ensemble en intersyndical, et même d'aller au-delà et de l'ouvrir aux non-syndiqués, et ça s'appelle un comité de lutte, quoi. Et ça, c'est donc des dialogues. Et quand j'apprends ça, c'est moi, je veux participer à ces prises de tête avant que ça soit annoncé aux AG, quoi. Donc, et ça, c'est et tout le temps rester avec le plus grand nombre. Donc, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, comment c'est retransmis par l'AG, comment c'est ressenti par les gens qui l'écoutent, par les Conti, et comment ces mouvements. Oui, on y va, on est solidaire, on suit le mouvement, on n'a rien à perdre. Mais j'assume tous mes choix, c'est-à-dire que j'ai pas voulu. Enfin, pour la télé, par exemple, les ingrédients, ça aurait été de prendre 5 personnages, de ne pas les lâcher, et puis d'avoir des réflexions peut-être après dans un café ou chez eux. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as pensé? De faire autre chose, quoi. Donc, il y a peut-être 1000 façons de traiter en film, documentaire, ce conflit, quoi. Moi, je l'ai fait avec complètement à l'envers, dans une logique complètement à l'envers, dans le sens où d'abord on écrit un film, un projet, on cherche un financement, une télé. Là, c'était tellement soudain que le 11 mars, j'apprends comme eux. Voilà, l'information, que les mecs perdent l'usine, je pense à des copains qui sont dedans, ça me révolte parce que j'entends, je suis les informations en général et je sais ce qui se passe ailleurs aussi, et mes convictions politiques, je trouve ça, je sais pas où on va, mais je trouve ça catastrophique, quoi. Et là, paf, d'un seul coup, c'est à 5 km de chez moi, ça arrive. Et je me dis, c'est pas Robin des Bois, tu vois, mais je me dis, j'ai une caméra, je vais faire un truc, quoi. Et le 11-12, je travaille avec une boîte sur Compiègne, je peux pas y aller, j'écoute les infos, et déjà, je suis parti dans ma tête en disant, faut que je fasse quelque chose, même si j'y vais le 13, le 13 mars, je travaille pas, je passe toute la journée avec eux, en me disant, en me présentant, j'habite Tourotte, c'est à 5 km d'ici, je suis du coin, je suis pas de Paris, je suis pas à la télé, ce que je vais faire, vous le verrez pas ce soir, je vous suis, ayez confiance en moi. La première chose que je vais faire quand le film sera fait, ça sera de vous le présenter, quoi. La transparence, totale, quoi.
Ça n'a pas été simple.
Comment ça?
Combien de temps à peu près tu peux dire que tu avais acquis quand même la confiance de la majorité? Parce que comment les gens aussi ont pu comprendre? Donc toi tu es chef opérateur, c'est ton premier film en tant que réalisateur, donc tu viens d'expliquer que vraiment il y avait une urgence à filmer, comme ces gens étaient dans une urgence de lutter et tout ça, vous vous retrouvez sur quelque chose, mais malgré tout tu représentes les médias, donc il y a une méfiance, donc comment on contourne tout ça, quoi?
Ils l'ont bien compris, dans le sens où moi j'aurais pas posé aucune question. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que je ressentais, ce qui dégageait de cette ambiance que je palpais sur la détresse des gens, quoi. Deux Conti qui parlent au départ de leur ressenti, parce que ça, c'était que de l'échange devant l'usine. Ça suffisait, quoi. Maintenant, j'arrivais, ils arrêtaient de parler, donc il a fallu, mais j'ai dit 10 000 fois les mêmes mots, quoi. Et je pense qu'au bout d'un mois et demi, quoi, il commençait à plaisanter avec moi. J'étais la télévision continentale. Putain, Philippe, t'es encore là, on le voit quand on filme. parce que ça, il y a des gros blagueurs aussi. Et donc dans tout ça, discuter avec des gens simples, des contis, ceux qui recevaient l'information, et puis aussi d'être dans le noyau dur de ceux qui les têtes pensantes, quoi. Et alors en un, c'était le noyau dur, le comité de lutte à convaincre, parce que c'est eux qui plus ou moins entre guillemets pouvaient m'autoriser ou m'interdire. Je pouvais rester que dehors, devant l'usine. Dans l'usine, c'était la direction qui voulait pas. Et éventuellement, dans le bureau de la CGT ou des syndicats, ils auraient pas voulu que je vienne. Donc c'était des discussions avec Xavier Mathieu, avec tout le monde. Je tenais le même discours qu'avec tous les ouvriers devant l'usine, en disant voilà, moi, il y a un combat qui se fait. Moi, je suis en train de faire quelque chose que je ne sais pas. Donc, je les rassurais pas avec mes réponses. Mais je dis, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose qui servira de mémoire. J'avais dans la tête le mémoire de Lib, par exemple, dans les années 70, en disant, j'étais étonné par la présence de tant de médias et en me disant, et puis, comment c'est, enfin je sais pas, une fois qu'on est dedans dans cette ambiance là, c'était une super lutte, quoi. Puis il y avait toujours Continental, mais il y avait Caterpillar, Molex, je me rappelle qu'en juin 2009, ça allait tellement mal, enfin tout ça, il y avait tellement de pression que je pensais vraiment honnêtement qu'il y aurait une grève générale en France, quoi. Et j'ai appris, pas surpris, mais triste d'entendre ça, parce que je pense que c'est la vérité. Je sais pas si tu dois dire qui m'a dit ça, mais un mec vachement bien placé, quoi. Il m'a dit, tu sais Philippe, si ça n'a pas eu lieu, c'est ni par le gouvernement qui a tout fait pour que ça se barre en vrille, ni par le capitaliste, les patrons et tout ça, c'est uniquement les syndicats qui ne sont pas mis d'accord. C'est triste à entendre, mais on en est là, quoi. Et quelque part, le message qu'il y a dans ce film, c'est quand on se met... Alors évidemment, là, le message, s'unir parce que l'usine va fermer, c'est quelque part quasiment logique, quoi. Mais dans leur conflit, on va pas, les mecs des cadres, ils ont jamais battu parce que c'était un truc qui concernait les ouvriers, quoi. Donc c'est vrai que c'est différent. Mais moi, quand j'ai vu que tous ces gens se mettaient ensemble, j'ai trouvé ça hyper intelligent en me disant, mais c'est la... C'est comme ça, ils l'ont senti comme ça, en disant on va s'unir, quoi. Mais le comité de lutte faisait que c'était pas uniquement les syndicats qui allaient décider aussi. Faut faire à un moment donné, par une stratégie qu'on va pas forcément expliquer à tout le monde, on va signer ces accords-là, quoi. Donc là, c'était vraiment comme il l'explique, Xavier, c'est pas les syndicats, c'est chaque ouvrier, quoi. Chaque réflexion, chaque proposition était expliquée en AG. Et était voté par tout le monde, quoi.
Moi, j'ai l'impression qu'on sent quand même que cette lutte, elle fonctionne aussi parce qu'il y a des gens qui ont accumulé des grandes expériences dans la lutte syndicale. Je sais pas le parcours de Xavier Mathieu, s'il a toujours été chez Conti, s'il a toujours été délégué syndical, s'il a toujours... Mais en tout cas, on sent ils savent ce qu'il faut faire dans quelle situation. Ils savent vraiment placer le rapport de force et c'est comme ça qu'ils y arrivent. Ils savent très bien quels sont les enjeux, à quel moment il faut taper du poing sur la table, à quel moment il faut peut-être être un peu... Et du coup, oui, voilà, je voulais t'interroger sur le parcours de Xavier ou des autres, hein, parce que pour moi, ils sont vraiment tous aussi intéressants. Et dire aussi vraiment le sentiment que j'avais, moi, qui était que ce film donne quand même à voir une vision du syndicat qui est quand même pas forcément très courante aujourd'hui. C'est-à-dire que ça rend une vraie dignité et au travail syndical et aux travailleurs de toute façon, mais qu'on est dans une parole. Enfin, je trouve qu'un des gros avantages de Xavier Mathieu et des autres délégués syndicaux, c'est quand même cette parole franche avec ses mots à lui et qui parle à Monsieur Gustin au ministère du Travail, qui parle à machin, et il parle de la même façon, quoi. Et c'est ça qui est assez étonnant aussi dans ce personnage.
Ouais, mais mais l'histoire, par exemple, syndicale de cette usine, si tu veux, c'est que la CGT est minoritaire. Par exemple, le comité d'entreprise, enfin, c'est la CFTC qui l'a, quoi. Et c'est le monsieur qu'on voit dans le film, je sais plus son nom, qui avec son un truc, une chasuble bleue, CFTC. Et si tu veux, après, c'est des relations humaines. Ce mec-là, je l'ai jamais senti. Je me suis dit, ce mec-là, a tort ou a raison. Hein. Et je me fiais pas au raisonnement des contis qui le connaissaient en disant ce mec-là, il pense plutôt à sa gueule que la gueule de toi, tu vois. Donc il y avait tout, donc les délégués syndicaux, la CFDT, tout ça, je pense qu'il y avait des personnalités différentes, je crois. Et quelque part, ce conflit-là, pour tous les syndicalistes, les délégués, je pense que ça les dépassait aussi, quoi, l'ampleur. Ils n'avaient jamais... Et certains ont continué. Il y a une séquence, par exemple, où ils sont en train de s'expliquer. Et elle est superbe parce que ça montre bien que même s'ils voulaient cacher à la presse, et je les comprends, ce genre d'engueulade et des rectifications, et on sait très bien que ce genre de choses, de réflexion commune, ça se fait rarement sans engueulade, mais qu'il y avait des problèmes entre eux qu'il faut résoudre très vite, mais qui restent parce que ça fait longtemps, malgré la réflexion de ce combat-là au présent qu'il faut analyser et trouver des stratégies, quoi. Donc, et on sent que les trucs qui sont pas bien, les gens continuent à essayer, de tirer un peu plus la couverture à eux en disant... c'est quand même... et là-dessus, je pense que Xavier Mathieu, le mec de la CGT, il est absolument pas comme ça, quoi. C'est un mec que j'ai senti, moi, avec un grand cœur... Et d'autres, je les ai sentis vraiment, je ne dis pas parce qu'ils sont autrement que c'est des gros cons et tout ça, mais voilà, il y avait tout, je savais très bien qu'il y ait... Et du coup, mes affinités, à tort ou à raison, moi je ne suis pas journaliste, je n'ai pas été objectif, j'étais avec les mecs qui avaient un grand cœur. Donc on apprend, et j'ai même à un moment Xavier dit, il y a des gens qui disent autre chose justement de ce qu'on dit nous, ensemble, et qu'on va dire à la presse, certains, à un moment donné, t'apprends ça, certains disent autre chose. T'apprends aussi qu'il y en a d'autres qui nagent en eau trouble, comme dit Didier à un moment donné. Toi. Donc, et ça, pour moi, c'est la réalité. Je sais très bien que là, on touche la réalité des relations syndicales à l'intérieur de l'usine. Voilà, donc c'est comme je sais aussi que avant Xavier Mathieu, en tant que délégué syndical, c'était un mec qui devait être aimé de 5% des ouvriers, quoi. Et que après, dans le conflit, parce qu'il a montré, par la façon dont il a exprimé, parce qu'il y avait d'autres personnes, hein, il n'y a pas que lui qui réfléchissait, mais c'est lui qui parlait. Je veux dire, il y a des cadres, des mecs et tout ça, et il tapait dans l'épaule de Xavier, grand merci et tout. Et ça, c'est vachement fort aussi, d'être là et de voir les gens. Quant à l'intelligence qui arrive, c'est l'intelligence qui prime, ça. C'est vraiment, on ne reste pas sur des trucs terre à terre de merde. D'essayer, moi, de qu'est-ce que je peux négocier avec le patron en catimini pour que moi, ma gueule, j'en sorte mieux que les autres, quoi. Parce qu'il y a des gens qui, comme je sais qu'il y a des Contis que j'ai jamais vus, mais je sais qu'ils déjà travaillaient au noir ailleurs quand ils travaillaient chez Conti, tu vois. Donc quand l'usine a fermé, ces gens-là, ils sont jamais venus battre. Et j'ai pas à dire ça, mais peut-être que c'est ces mecs-là, quand ils sont venus à la négociation, enfin, au résultat des négociations, ont sifflé parce que 50 000 euros, c'était peut-être pas assez, quoi. Il y a tout, quoi. Enfin, moi, quand j'arrive là-dedans, je me dis, Philippe, t'as la représentation de la France, là. T'as les mecs, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, t'as des catholiques, des musulmans... des mecs qui font des sportifs, t'as des mecs qui, tu vois, des hommes et des femmes, beaucoup moins de femmes parce que c'était une usine vraiment pénible, mais il y en avait quand même quelques-unes, ouais. Mais non, je ne sais pas oublier, il n'y en avait pas beaucoup, donc je n'en ai pas mis beaucoup à l'image, mais il y en a quelques-unes quand même. Et puis voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire que chez Conti, ce qui s'est passé, c'est peut-être justement un rapport un peu, un équilibre un peu différent dans cette... ce comité de lutte, justement, qui rassemblait tous les délégués syndicaux, ou peut-être que le côté humain a pris le dessus et que ça, une fois que ça prend le dessus, ça peut engendrer des choses quand même assez belles au niveau du collectif, quoi. Est-ce que ça peut être de là que vient un petit peu cette énergie incroyable qu'il y a dans cette lutte, quand même, qui est, comme le dit à un moment... Je crois que c'est Xavier Mathieu, journaliste de France Inter, je crois qu'il dit les luttes en général, ça part très fort et après ça s'essouffle, et là, nous, ça part de plus en plus fort et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quoi.
C'est aussi entretenir quelque part, il joue avec la presse aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est l'intox ou pas, il dit, voilà, suite à cette intervention surprise à Sarreguemines, quand même tous les mecs avec leur bagnole vont à 5 heures de bagnole à Sarreguemines en Moselle. Et surprise, parce qu'ils avaient dit, parce qu'ils savaient très bien, et moi ils me montraient les mecs des RG qui étaient habillés en civil, évidemment, et qui étaient parmi les ouvriers pendant les AG, quoi.
Quand ils arrivent, quand même, donc elle est
Oui, parce que si tu veux, moi, que j'ai fait la route avec des syndiqués, enfin avec des Conti, si tu veux, il y avait déjà, on était survolés par deux hélicoptères, quoi. Donc à un moment donné, si tu veux, des centaines de bagnoles qui débarquent, et puis que les mecs, ils savaient, il y avait la presse aussi, tout, il fallait qu'ils mettent au courant, donc ils ont mis au courant la presse. Une fois que la presse était au courant, les flics étaient au courant. Donc après, ils ont rectifié le tir, mais ils devaient aller à Neuchâtel, je crois. Et c'était... Là-bas, il paraît qu'il y avait les chars canons à eau et tout ça qui les entendaient, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils allaient là-bas. Et eux, c'était ok. Et puis là, ils commençaient à déconner avec les... Enfin, toi, moi, je trouve ça intéressant, quoi, de dire des l'intox. Toute la police s'était organisée là-bas, et puis ils ont été ailleurs. Donc après, ils ont... Il y en a pas beaucoup de police. Moi, j'aimais bien les filmer pour montrer que... c'est vrai que je les ai filmés beaucoup, les...
Avec ce jeune CRS, je crois, là, qui est en avant-plan et qui sent très très gêné d'être là visiblement et d'être filmé, mais en même temps il peut rien faire puisque le règlement, ça a l'air d'être le règlement, quoi.
Non, moi j'aime bien aussi ce filmé en Allemagne, et je l'ai mis à une façon entre un rapport de force entre la entre enfin les autorités, et donc là le plan c'est des Robocop, quoi. Tu vois que les pieds, tu vois comment ils sont habillés, ça fait moi, ils me font peur, ces mecs là et tu vois, je change de point parce que j'avais vu qu'on voyait les Conti dans le même axe, tu vois, je pouvais pas tourner pour faire l'effet, mais ça c'est fait comme ça, vraiment j'y pense en disant eux et nous, eux la force, les chaussures, le Kevlar et tout ça, et nous pof, un petit changement de point dans le reflet des Conti qui manifestaient dans le reflet de la fenêtre, de la porte derrière. C'est des trucs comme ça qui sont posés. Ouais, évidemment. Mais là, ouais, c'est aussi logique qu'il y ait des forces de l'ordre aussi pour ça. Mais c'était voilà. Puis moi, je suis pas neutre. Je monte la police, quoi. Comment ils sont habillés, comme des mecs habillés en bleu de travail. Il y a eu des drôles de rapports aussi avec la. Mais je crois qu'il y a eu une fois où j'ai pas. Et sur Paris, il y a eu un peu de frites avec les CRS, quoi. Mais parce qu'à un moment donné, c'est des mecs, ouais, ils sont fiers, quoi. Donc ils veulent pas. Ils vont pas se laisser avoir, quoi. Surtout que Didier Bernard. Non, mais pour revenir aussi sur l'organisation, enfin le côté comité de lutte et réflexion, stratégie, ils avaient fait quand même appel à quelqu'un qui était un ancien délégué de l'usine Chausson pendant un autre conflit d'ailleurs dans le même coin, dans la vallée de l'Oise, à Creil, dans les années 75-80 par là, qui a duré plusieurs années. Et voilà, bon, quelqu'un de gauche, de lutte ouvrière, et ce monsieur, ben, il avait une réputation, un énorme savoir-faire des lois, du coup, parce qu'il faut se battre, mais il faut être intelligent, donc faut se battre avec les armes, les lois, quoi. Puis pour pouvoir les contourner, il faut tout savoir. Enfin, et donc, ils ont fait appel très tôt, quoi, à ce mec-là, Roland Spirko, qui est venu et qui, à mon avis, qui a donné d'excellents conseils, quoi. Parce que, après, c'est la structure du syndicat qui a cette expérience-là de conflit et tout. Tu lâches 1000 mecs, et puis des mecs qui sont un peu pas de très bons syndicalistes. Comment ? Moi, je me dis, toi, tu prenais un autre, un blaireau pour moi, hein, j'assume mes dires, mais porte-parole de la lutte, je suis sûr que la lutte, elle finit pas comme de la même façon, j'en suis persuadé. Donc, et après, à la fin, quand quelque part, parce que ça va fermer, tout le monde est des. Mais il y a ça qui fait que la mayonnaise, elle prend. Mais moi, je trouve ça très beau que tu as des mecs qui votent à droite, des cadres, tous les syndicats de la CGT, enfin, tu vois, des gens qui votent extrême gauche, la tête pensante qui est un mec de lutte ouvrière, et tous ces gens-là ont été dans le même sens. Pour aboutir à une victoire, si les gens ils comprennent pas ça, quoi, que le message qu'il y a dans ce film-là, moi c'est ça que j'ai simplement. On l'entend beaucoup, mais c'est pas une utopie de dire tous ensemble. Enfin, je veux dire, on peut déplacer des montagnes, quoi. Et si on voit ce film-là, je pense que on peut ressentir ça. Il y a une dame hier qui m'a dit, je suis ressorti de la séance, j'étais boosté, j'étais remonté et tout. Et ouais, maintenant je voudrais bien, tu vois, le montrer, par exemple à Toulouse, au cinéma Utopia, je suis en cours de préparer ça avec eux, quoi, parce qu'il y a trois sites continentaux autour de Toulouse, ça va très mal pour eux. Je me dis, tout ça, après, je me dis, c'est peut-être mon petit truc à moi de montrer ce film-là, de cette lutte qui est comme pour moi exemplaire, quoi, et si ça peut donner un semblant de dire, tiens, on va faire comme les Conti, quoi. Ça veut rien dire, parce que, mais au moins une direction, parce que je pense qu'il faut vraiment un énorme savoir-faire, parce que en face, y a quand même des mecs du côté patronal, enfin multinational, et du côté de du gouvernement français, des mecs qui sont hyper intelligents, qui ont fait des grandes écoles et qui savent très bien amener une stratégie et dont c'est le boulot à temps plein. Donc à un moment, moi je voyais ça comme une partie d'échec, quoi, une partie de poker. C'était les bluffs. Tu vois, l'incident de la sous-préfecture, le fait qu'ils décident de ne pas répondre alors qu'ils se parlaient avant, c'est quand même bien une stratégie, quelque part. Bon, après, ça, eux, ils répondent, ils improvisent. Bon, ils vont là-bas, ça se passe mal. Mais quand, dans l'assemblée après, ils font ça parce que ça faisait des jours et des jours qu'ils attendaient une réponse, ils ne l'avaient pas. Donc ils décident de faire ça le lendemain. Le mec du gouvernement leur dit quand même 2 heures après la casse, bon c'est bon, on va se la faire cette réunion. Pourquoi ? Pour moi, si tu veux, c'est l'État qui a poussé, c'est l'État qui devrait payer la casse. Mais parce que c'est eux qui sont responsables. Mais voilà, et c'est parti, c'était uniquement une joute, quoi, une partie de poker, tout le temps, de stratégie. La stratégie de Sarreguemines, mais Sarreguemines, ça m'a fait mal, parce que c'était vraiment là où on voit une occupation d'une autre usine, la leur, certes, c'est le même groupe, mais ils savent où ils vont, ils la connaissent, mais quand même, il y a un truc, tu sais pas comment ça va aboutir, il y a un suspense terrible, quoi, et à la fin, quand ça va, tu sens que ça va mal finir, que les mecs, ils veulent que cette réunion soit après une date butoir, enfin, et eux, ils savent très bien que si c'est après, ils ont perdu, donc il y a des gros mots qui sont dits à ce moment-là, et tout ça, il faut pas déconner, faut pas les prendre pour des cons, ces gens-là. Donc, et ils sont prêts, grosse impro, à dire voilà, on va rester là. Mais ils ne savent pas, on va occuper l'usine. Je veux dire, c'est combien arrêter une production d'une usine comme Sarreguemines, c'est des millions et des millions, quoi, de pneus, de l'argent. T'imagines l'argent qu'ils perdent. Ils jouent avec ça. Et puis un dénouement parce qu'eux, ils font autre chose, quoi. Donc c'est vraiment. Mais ils décident quand même de peut-être occuper, dormir là. Et tout de suite, ça répond. Les mecs, ils répondent oui.
C'est là où, alors après, qu'est-ce qui tient de Xavier Mathieu, qui finalement, comme tu dis, c'est quand même avant tout un porte-parole. Les têtes pensantes, il en fait partie, mais il est loin d'être seul. Il y a ce Roland Spirco, qui est retraité maintenant, mais qui est toujours au syndicat.
Chez Lutte Ouvrière, ouais. Syndicat, je ne sais plus, mais je ne sais pas s'il en fait partie. Mais il avait une grande expérience de conflit social, mais après, non, il est plus dans la politique, quoi, maintenant.
Jamais travaillé chez Conti, non. Qui vient faire bénéficier de son savoir, de son regard un petit peu sur les choses. Et justement, je trouve que toute cette alchimie fait aussi qu'en face, on voit chez les Conti donc une espèce de détermination et juste un truc qui paraît étonnamment simple et étonnamment normal dans ton film, c'est que à partir du moment où on baisse pas la tête et qu'on dit qu'on va jusqu'au bout, et ben là on commence à être pris au sérieux. Et c'est ça qui est très fort, je trouve, dans l'image de Conti. C'est ça qui est cette fierté, cette dignité. On est des travailleurs très bien, mais on a notre langage, on a notre façon de faire, mais il va falloir faire avec ça, quoi. C'est quelque chose de très fort, en tout cas.
Et ils ont fait avec ça. Parce que, ouais, c'est absolument...
Ils prennent leur place, quoi. Ils n'attendent pas qu'on leur donne des miettes ou quoi que ce soit. Ils prennent la place qu'ils ont envie de prendre, enfin... Toute proportion gardée malgré tout avec
cette. Pour cela, oui, effectivement, mais dire on va faire ça pour ça, quoi. Ils ne le font pas pour ça, d'ailleurs. Ils le font pour... Ils le font pour avancer, pour se défendre, pour dire, je crois qu'au départ, ils avaient demandé 200 000 euros, je crois. Voilà. Et on l'apprend après, et ils ont 50 000, et la direction répondait 17 000. Donc ils ont eu 50 000 euros de primes, mais ils ont eu après, je vous dis, tout ça cumulé, ils ont eu 50 salaires, quoi. Donc je pense que c'est pas bien, parce que dans le sens où ils ont perdu leur instrument de travail, l'usine est fermée, mais enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même bon.
C'est énorme par rapport aux autres négociations sur les autres boîtes qu'on fermait, quoi.
On apprend, je pense que c'est le conflit social en France où les ouvriers sont sortis aussi bien, entre guillemets, quoi. Donc ça.
Y a juste un truc que je voulais relever, c'est en fait ils se battent non pas pour que l'entreprise reste ouverte, mais pour avoir les meilleures conditions de départ.
C'est vrai que très vite, je pense qu'ils se rendent compte que... Alors, je ne sais pas comment. J'ai pas abordé ça, mais parce que très vite, ça va très vite sur partir avec les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils sentent que... Parce qu'il y a un délégué syndical qui, lui, croit encore, il est le seul. peut-être qu'il est dans le vrai, quoi, mais est-ce qu'il est hyper naïf, parce que dans le monde, enfin, faut pas aussi, faut ouvrir les yeux et savoir ce qui se passe, quoi. Quand on a décidé, maintenant, les actionnaires ont décidé de délocaliser et qu'ils vont gagner encore plus d'argent en le faisant, je vois pas la défense de la fermeture du site, à mon avis. Mais ça vaut le coup aussi de se défendre. Mais c'est vrai que très vite, ils abandonnent cette idée-là. Ce que je sais. C'est
pragmatique,
ouais, là-dessus. C'est... Ouais, et très vite, on va en sortir avec un maximum. Mais ils ne vont pas se battre, effectivement, ou ils se sont peut-être battus un jour ou deux avec cette idée-là. Il ne faut pas que ça ferme. Mais très vite, ils se rendent compte qu'ils vont peut-être pouvoir rien faire contre ça. Donc maintenant, le plan B, c'est en sortir la tête haute. Je sais pas, ça c'est pour ça que des fois j'aime bien. Maintenant j'ai la chance d'avoir fait ce film et que maintenant ce film il passe dans des. Bon, il passe pas à la télévision, j'espère, parce qu'il toucherait un plus grand nombre, mais c'est de le présenter à des festivals, c'est de le présenter à des projections comme ça, d'associations qui savent l'existence de ce film. Il est fait pour ça, être vu maintenant. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs.
En tout cas, oui, c'est dans ces endroits, je pense aussi, où il est nécessaire, parce qu'il permet, non seulement c'est une mémoire, parce que c'est une lutte quand même marquante, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que je pense qu'on en parlera encore dans plusieurs années, mais c'est aussi, ben voilà, ça donne de l'optimisme aux luttes à venir aussi, et ça c'est très important aussi, je pense, de savoir qu'il y a des moments, il y a des choses qui fonctionnent, quoi, si le rapport de force est établi d'une façon qui rend des négociations possibles du côté des travailleurs, quoi.
Je pense que théoriquement, ouais, tu as raison de dire ça, ou par rapport à des syndicats sur des luttes présentes ou futures. Mais après, je ne sais pas. Je pense qu'après, il y a l'homme derrière et il est compliqué. Donc je ne sais pas si...
En tout cas, moi, ça me rend optimiste, ton film. C'est aussi pour ça que je disais ça. Ça me met en joie parce que je me dis, voilà, il y a des raisons de se battre. Et le collectif a du sens parce que des fois, on a tendance à avoir un peu des doutes, quoi.
Ah non, mais c'est vraiment, moi, le message que je laisse passer, c'est ça, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est... Tous ensemble, on y arrivera. Si les gens... on peut aussi perdre, hein, parce que devant, ça dépend aussi. Mais là, c'est par rapport à tous les conflits sociaux et comment ils se sont terminés. Est-ce que, par exemple, on remplace... Moi, j'ai vu, là, en début d'année, un film sur les Molex, par exemple. J'ai trouvé ça très, très mou. Mais le conflit, leur bagarre, c'était une autre bagarre, quoi. C'était autre chose. C'était plus sur le juridique. Ils sont plus... Est-ce que, tu vois, et voilà, il y a peut-être eu des facteurs, le Didier Bernard, le Xavier Mathieu, qui s'est dit... Je sais pas, qui s'est senti une mission de monter sur un banc et de prendre le micro et de parler. Et tout ça fait que ça a eu une force, la mayonnaise peut-être à la prise, que dans d'autres endroits, ça ne prend pas.
On voit jamais Bernard Thibault.
C'est vrai qu'on voit jamais Bernard Thibault. Et ça, j'ai essayé, moi, parce que je voulais poser la question, mais ils n'ont pas voulu non plus trop, parce que c'était pas non plus... leur lutte, si tu veux, mais c'était dit, parce que c'est vrai qu'il y a un an, d'ailleurs, Xavier avait parlé un peu de la non-présence sur le conflit de ce monsieur, et c'est là qu'on voit justement, moi je crois au syndicat, mais il y a aussi, bon bah là, voilà, il y a homme ou femme, enfin homme avec un grand H, et on peut aussi avoir une façade et derrière de faire le contraire de toi, enfin je sais pas, où il y a aussi. J'imagine bien comment les syndicats et un ministre du Travail ou un président, à un moment donné, autour d'une table, comment ils se causent, quoi. Quels sont les deals, je suis sûr que ça doit être terrible à entendre aussi, quoi. Hey, Coco, bon, tu me lâches ça, je te donne ça. Enfin, soit ça doit être comme ça. Donc. Et après, tu peux te dire, bon, le fond, des fois, expliquer, se justifier... auprès des ouvriers parce qu'on était obligé de signer ça alors que les mecs ils voulaient pas, ça doit se passer souvent ça aussi, tu vois. Donc là l'intérêt, et c'est l'intérêt des contis qui est signé, quoi. C'est pas l'intérêt d'un syndicat, quoi. C'est vraiment l'intérêt général, comme il l'explique. Et comme il le dit au début, ça sera à main levée. Donc là, à main levée, c'est la majorité qui décide. Il n'y a plus de... c'est bien pour nous, machin, on va s'en sortir des plans, toi, un peu enlousés à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il faut pas dire, moi je dis pas que les syndicats sont inutiles, toi, ils ont une grosse expérience. Mais il y a des fois des choses qui me dérangent, justement. Peut-être qu'on pourrait réussir à gagner plus de conflits si les syndicats, je sais pas, je suis peut-être un grand naïf de dire ça, mais ils pensaient peut-être à... Parce qu'on peut penser à une stratégie, ils peuvent penser à dire oui ou oui, ça c'est bien, ça on va le faire, ça on va pas le faire. Ça. Mais peut-être aussi que dans ces décisions-là, il y a une troisième à laquelle ils n'ont pas pensé. Quoi. À un moment donné...
Qui est peut-être propre à une entreprise à un endroit donné et qui n'est pas négociable, comme tu dis, à l'échelle de la France entière, parce qu'on n'échange pas des molex contre des contis. Et à un moment aussi, c'est peut-être un peu ça le problème aussi. C'est logique comptable, je pense que... On en est assez convaincus, mais juste... Oui, je me demandais aussi, parce que tu nous as dit que tu avais projeté donc, le film au Conti, et je voulais que tu nous parles un petit peu de leur réception en fait, du film, comment ils avaient... Et aussi sur le système que tu as mis en place, une souscription, si tu pouvais nous expliquer un petit peu ça.
Alors, dans l'ordre des choses, c'est que pendant le tournage, évidemment, ce tournage s'est fait sans argent, vu qu'il n'y avait pas de télévision et tout ça. Donc ça, c'était quelque chose qui était acquis et qui m'empêchait... Enfin, ça n'allait pas m'empêcher de le faire, quoi. J'étais vraiment... Pour moi aussi, c'était une mission quoi, un peu comme Xavier, quoi. Il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Et ensuite, moi, il m'arrive... Bon, je suis très vite, mais j'ai plus de boulot qui me rapporte, comme tout le monde, de l'argent. Je suis intermittent du spectacle. Dans le monde du documentaire, au niveau des télés, ça va mal, donc tout le monde attend et donc j'ai plus de travail. Donc je me retrouve à n'ayant plus rien et en passant tout mon temps sur un sujet où c'est des gens qui vont perdre leur boulot. Donc je rigole tout ça avec ça. Et à un moment donné, les Conti me disent, ils me remontent le moral aussi parce qu'ils voient bien que ça va mal, quoi. Et ils me disent, ouais, t'es encore là, Philippe, on le voit quand ton film et tout ça. Donc les deux là, j'aurais pas pensé à la souscription, mais je me suis dit, ces gens-là, à la fin, quand ce film, ils le verront, ils vont me l'acheter, ben, peut-être, quoi. Donc, du coup, j'ai pensé à leur vendre, à leur faire une souscription, et à leur vendre avant, en leur expliquant que, bon, ils achetaient un film qui n'était pas fait, qui n'était pas fini de tourner, mais qu'il fallait toujours me faire confiance, et à la fin du conflit, quand le film serait fait, et je leur remettrai, quoi. Et puis, en octobre 2010, le film terminé, j'ai organisé...
Mois de montage.
En gros, j'ai commencé en juillet 2009, le début du montage, numérisation, enfin une première phase technique, 70 heures de rush, alors avec tout le travail qu'il y a derrière, et le montage ensuite, la période c'est 12 mois de montage, et j'arrive à la fin, donc le film est fait 1h45, j'ai pas pu faire plus court. Et là, sur nos propres deniers à nous, on finance une projection, mais super, avec du super matos de projection, une base d'image 8m50, 5 mètres de haut. Et là, il y a 600 Conti qui viennent. Et c'est la première. Et moi, je suis conscient. C'est-à-dire que là, j'anticipe les Conti parce que je connais bien. Et je sais très bien que ça va leur faire tout drôle et que eux, pendant plus d'un an, ils ont vu les Conti, mais dans les médias, traités autrement, dans des magazines, dans les trucs d'information, des choses comme ça. Et là, je sais que là, ils ont une histoire qui va durer 2h25, du début à la fin. La fin, ils ne savent pas où ça se termine, parce que le conflit était encore en cours, il y avait d'autres choses à cette époque-là, mais moins importantes, entre guillemets, mais le conflit n'était pas encore arrêté. Et là, c'est... Tout le monde a pleuré. L'émotion a été palpable, et moi, je chialais comme une madeleine, c'était... Et là, tu t'as dans les yeux des gens... toutes les fois, toi, du tournage, quoi, les gens qui t'ont fait confiance, et tu leur dis, là, mouvement de tête, ça va, vous êtes contents, enfin, tu vois, c'est fou.
Parce que, justement, pour installer la confiance, justement, tu leur avais dit aux Conti, et notamment au comité de lutte, que tu leur montrerais le film avant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, si t'ont fait échanger des séquences ou tout ça?
Alors le film, effectivement, quand il est presque fait, et donc je vais leur montrer, Xavier Mathieu, on est au téléphone, il me dit, bah, peut-être qu'avant de le montrer à tout le monde, il faudrait quand même que le le noyau dur, le comité de lutte le voit, donc ils sont venus chez moi à 8, ils ont vu le film qui était vraiment presque terminé. Et là, je me suis dit, c'était la première. Si tu veux, le film, bon, je suis un grand naïf, tout ça, mais je savais, si tu veux, qu'il y avait des choses. Et le film, je l'ai testé. Toi, donc, j'ai ma fille Louise qui a une licence de cinéma. J'ai dit, attends, ma puce, viens voir, là, faut que tu. Donc, elle l'a vu. Des copains, copines qui n'étaient pas trop dans le truc, mais qui n'étaient pas. Qui sont dans l'éducation nationale, si tu veux. Je l'ai montré à des copains réalisateurs du métier, si tu veux, mais des copains. C'est-à-dire, pas, je ne voulais pas entendre. Moi, à ta place, j'aurais fait ça, toi. C'était donc. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, j'ai quand même senti certaines choses, quoi. Donc après, je me suis dit, ces 8 contis là, c'était la première fois que c'était des contis qui voyaient le film, quoi. Donc là, comment ils vont réagir? Et ils ont réagi parce que pendant les 2h25 du film, j'en ai quand même surpris plus d'un à pleurer. Donc je me suis dit, il y a quand même l'émotion, elle passe, quoi. Mais par contre, à la fin du film, ils sont tous partis et ils m'ont fait rien enlever, quoi. Mais il y a une scène où dans une réunion comme ça, les syndicats montrent qu'ils sont pas d'accord et ça vraiment ça gueule fort, quoi. Donc ils ont voulu revoir cette scène là puis moi j'ai défendu, parce que tout de suite j'ai dit quand même ils vont pas me l'enlever, quoi, tu vois. Donc tout de suite j'ai dit non attendez, c'est quand même caché ce côté à la presse, parce que pour toujours montrer qu'on était d'accord, ça fait partie de la stratégie de lutte du moment. J'ai dit là on n'est plus au même stade de la lutte, et ensuite ce documentaire là ça reste un truc où là je leur faisais comprendre qu'on allait on allait dans le futur avec le film, quoi. Moi j'ai dit l'opinion publique dans 2 ans, je parle des contis, qui va s'en rappeler? Personne, quoi. Heureusement qu'il y a ce genre d'initiative. Je ne suis pas tout seul à avoir fait cette initiative en tant qu'indépendant, mais je pense qu'on a, on a maintenant, on a notre rôle là concrètement, on intervient dans cette échelle du temps qui file. On a marqué le temps avec quelque chose, un super conflit. Enfin, et moi, mon espérance, c'est vraiment s'il pouvait servir à d'autres, quoi, de réflexion. Moi, je pense que la recette, on sait, la recette, c'est depuis des années et des années, divisée pour mieux régner, je veux dire, elle est. Et là, c'est la recette inverse, c'est tous ensemble, ben, ça marche aussi. Hein.
Bah, merci, et puis.
Ouais, merci beaucoup, en tout cas, pour ce film qui est un grand, grand plaisir de projection.
Merci à vous.
muscle forcing, bursting, stingy thingy into little me, me, me. But just ripple, said the cripple, as my jaw dropped to the ground. Smile, smile, it's true, I always wanted love to be hurtful. And it's true, I always wanted love to be filled with pain. So crippled, Big was happy, screamed, I just completely love you. There's no rhyme or reason, I'm changing like the seasons. Watch, I'll even cut off my finger. It'll grow back like a starfish. It'll grow back like a starfish. Mr. Muscle gazing boredly, anti-checking time did punch me, and I sighed and bleeded like a windfall. Happy bleedy, happy bruising.